Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. Une fois qu'ils ont survécu aux geôles libyennes ou à la périlleuse traversée de la Méditerranée, les migrants arrivés en Europe doivent encore se battre pour refaire leur vie. La Calabre, au sud de l'Italie, leur offre le meilleur comme le pire. Dans la plaine de Gioia Tauro, ce sont des migrants exploités dans les champs de mandarines et de kiwis et qui s'entassent dans des bidonvilles ressemblant à des décharges. Mais à quelques dizaines de kilomètres, on trouve le meilleur, des villages qui s'engagent à les accueillir. Dans un but humanitaire, certes, mais aussi pour compenser l'exode de leurs propres habitants, le village d'Acqua Formosa, au nord de la ville de Cosenza, et de cela, sur les 1100 habitants, on compte 80 migrants. C'est un reportage de Frédéric Lebel.
La campagne est vallonnée et traverte dans le nord de la Calabre. De loin, Acqua Formosa, à flanc de colline, ressemble à tous les villages de la région. Mais à y regarder de plus près, sur la place, près de l'église, c'est une autre histoire qui s'écrit. Sur le banc, on trouve les anciens du village. Leurs enfants sont partis travailler au nord de l'Italie ou en Allemagne. Dans les rues, les jeunes femmes avec des poussettes ou les jeunes gens que l'on croise à pied sont très souvent des réfugiés, les nouveaux habitants d'Acqua Formosa.
Ils viennent vraiment de plein de pays différents. On a des migrants qui viennent de Côte d'Ivoire, du Congo, de Syrie, du Pakistan, de l'Érythrée. On a une famille égyptienne. On a beaucoup de Palestiniens aussi. Ils viennent vraiment de pays en guerre.
Gennaro Caparelli est maire depuis 2014 et il est fier de poursuivre ce projet qu'avait initié son prédécesseur. Accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile pour une période allant de 6 mois à 1 an et demi. Un sas d'adaptation en quelque sorte. Le projet humanitaire a aussi permis à son village de ne pas s'éteindre doucement, faute d'habitants.
Le gros bénéfice économique, c'est que 30 personnes ici ont trouvé un emploi grâce à ce programme. Notamment des psychologues, des assistantes sociales, des médiateurs. Les migrants, ils habitent dans les maisons qui ont été abandonnées dans le centre. Leur loyer est payé et la commune leur donne des bons pour faire leurs courses. Par exemple, à l'école, on a aussi réussi à maintenir toutes les classes du primaire au secondaire grâce aux migrants. Il n'y a que cette année qu'on n'a pas pu maintenir la classe de CE2 parce qu'il n'y avait qu'une seule élève, une jeune syrienne, et ce n'était pas suffisant.
Sur la place près de l'église San Giovanni Battista, on croise Tapsoba, un jeune Ivoirien qui a choisi de s'installer à Acqua Formosa avec sa femme et ses deux jeunes enfants. La vie est tranquille, parfois trop. Il ne sait pas encore s'il arrivera à gagner sa vie dans cette région la plus pauvre d'Italie.
Acqua Formosa, c'est un village, c'est calme, tranquille. Tu peux rester là pendant toute ta vie, mais s'il n'a rien à faire. Donc, on prie Dieu que Dieu nous aide à obtenir quelque chose dans ce petit village magnifique pour qu'on puisse progresser ensemble. Je suis un couturier modéliste. Il faudrait un appui pour créer ce que je connais faire, créer une société pour tout le monde.
Un peu plus loin, deux familles érythréennes se sont donné rendez-vous. Elles viennent tout juste d'arriver du Soudan grâce à un couloir humanitaire. L'aîné des enfants a déjà son livre d'italien sous le bras.
Je m'appelle Semar, j'ai 20 ans. C'est très beau ici. La vie est bien, c'est un pays super.
Et comment vous voyez votre futur ?
Une vie meilleure, une meilleure éducation, un meilleur moi, m'améliorer. Voilà, je suis des cours d'italien en ce moment et après j'espère continuer et aller à l'université.
Semar loge avec sa mère et ses 3 frères dans une des maisons du centre-ville qui était abandonnée, elle a été rénovée. Au café, comme sur les bancs du centre-ville, l'arrivée des réfugiés ne fait pas l'unanimité. Vincenzo et Domenico ont beau être assis l'un à côté de l'autre, ils ont des vues complètement opposées sur la question.
Bon, j'ai dit la vérité. Vraiment, ils sont trop. C'est un peu d'accord. Mais maintenant, ils sont trop. C'est très exagéré. Même en France, ils viennent, non? Alors, on est trop. L'Europe est pleine maintenant, presque. Travail, il n'y en a pas. Comment on va faire?
Moi, je suis extrêmement content de cet accueil. Par exemple, ma fille, elle a trouvé un travail ici grâce à un nouveau dynamisme d'Aqua Formosa apporté par les migrants. Et s'ils n'étaient pas venus, ma fille n'aurait sans doute pas trouvé de travail. Elle aurait dû partir du village. C'est vraiment un motif de fierté de savoir qu'Aqua Formosa a accueilli tous ces migrants. Quand on voit l'Italie aujourd'hui avec ce bateau en Méditerranée avec plus de 600 migrants et qui n'a même pas pu accoster en Italie, je trouve ça honteux.
L'association qui gère l'accueil des migrants s'est aussi installée dans une ancienne maison qui était désertée. Lucia est psychologue, elle ne chôme pas, elle doit gérer l'adaptation de toutes ces familles.
Sans rentrer dans des histoires personnelles, je me souviens d'une ado qui avait beaucoup de difficultés à se sentir bien en famille. Elle se sentait tiraillée, elle ne savait pas trop où elle en était. Ici, la liberté des jeunes Italiens est différente. Ils ont le droit de sortir, de s'habiller comme ils veulent, il y a la mixité, et tout ça s'entrechoque avec leur culture d'origine. Les ados migrants se demandent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est juste? On doit travailler avec eux là-dessus.
Devant le centre d'accueil des mineurs non accompagnés, un groupe d'adolescents s'amuse avec un chien. Ce sont les vacances, l'école est fermée. Maureen n'a que 17 ans. Il se sent bien dans ce centre qui lui a donné une chance, même s'il n'a toujours pas ses papiers. Mais dans quelques mois, il devra partir.
Je suis heureuse d'être là pour recommencer une nouvelle vie. Je remercie beaucoup toute l'Italie, toute l'Europe qui nous a accordé cette chance.
Comment vous vous imaginez dans le futur? Vous vous voyez en Italie ou dans un autre pays européen?
Bon, je pense quand même de rester en Italie. Mais si je n'ai pas trouvé de travail, ce n'est pas la peine de rester sans travail. Comment tu peux faire pour vivre? À cause de ça seulement, je peux aller en dehors de l'Italie.
Collée au centre d'accueil pour mineurs, la mairie. C'est là que Gennaro Caparelli nous reçoit dans son bureau. Un immense étendard porte les armoiries du village et le nom d'Albaresh, c'est le dialecte local qui vient de l'albanais.
En Calabre, il y a à peu près 30 à 40 communes d'origine albanaise qui sont italo-albanaises. Nos ancêtres étaient des réfugiés albanais qui ont été accueillis il y a 5 siècles dans les villages. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Comme nos ancêtres ont eux-mêmes été accueillis il y a 5 siècles, nous, on se doit d'accueillir ici les plus pauvres qui ont fui leur pays.
Si l'élu s'est engagé dans la cause des migrants, c'est aussi pour des raisons politiques. Il n'a pas beaucoup d'estime pour la Ligue, le parti du ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini.
À l'origine, les membres de la Ligue, les léguistes, étaient extrêmement racistes envers nous, les Calabrais. Et le discours qu'ils tiennent aujourd'hui contre les Africains, c'est le même discours qu'ils avaient contre nous il y a quelques années. Du coup, à l'époque, on avait organisé une soirée où chacun pouvait monter sur scène et vider son sac contre la Ligue. Et puis, on organise aussi un festival de l'immigration spécialement dédié à lutter contre Salvini.
Autant de bons arguments et de bonnes causes, mais il y a aussi l'argent. L'État paie en moyenne 40 euros par jour et par réfugié. Une manne pour un si petit village. À la fin de l'année dernière, le maire d'une autre commune de Calabre, Riaché, bien connu pour son accueil des demandeurs d'asile, a été entendu par la police financière pour corruption. Gennaro Caparelli n'apprécie guère qu'on évoque ce scandale.
L'emblème de ces détournements de fonds, c'est Rome, Roma Capitale. Ils ont fait beaucoup de business sur la peau des migrants en promettant l'accueil. Mais à Rome, il n'y a pas cette notion d'intégration des migrants et des demandeurs d'asile. Ils disaient, on va mettre les migrants dans des hôtels abandonnés. Et puis, hop, on parle d'intégration et on s'en lave les mains. Ça, c'est Roma Capitale. Ici, il n'y a pas de détournement d'argent.
Dans un des plus grands centres d'accueil pour migrants de Calabre, celui d'Isola Capo Rizzuto, c'est la mafia qui a été mise en cause. L'an dernier, la police a lancé un vaste coup de filet contre le clan Arena. Il aurait obtenu des contrats pour la fourniture de nourriture aux réfugiés et détourné plus de 100 millions d'euros.
En décidant d'ouvrir ses portes aux migrants, ce village de Calabre n'est pas franchement au diapason du gouvernement italien. Le nouveau ministre de l'Intérieur a prévenu que l'Italie ne serait plus le camp de réfugiés de l'Europe, alors que son pays refuse d'accueillir dans ses ports les bateaux qui sauvent les migrants en mer. Il y a quelques jours, le Conseil européen préconisait l'ouverture de plateformes régionales de débarquement hors du sol de l'Union européenne. Les pays des Balkans occidentaux pourraient-ils bientôt accueillir ces camps de réfugiés? En tout cas, la rumeur court dans la région, Laurent Gélin.
La réponse n'a pas tardé à fuser. L'Albanie ne va pas accueillir de centres de réfugiés, Même en échange d'une accession à l'Union européenne, s'est empressé de répondre Edi Rama, le premier ministre albanais, à l'hypothèse d'installer dans son pays une plateforme régionale de débarquement. Théoriquement, ces centres devraient permettre aux réfugiés de déposer une demande d'asile dans un pays de l'Union européenne sans avoir à y pénétrer. En 2015 et 2016, plus d'un million de migrants avaient emprunté la route des Balkans en direction de l'Ouest, par la Grèce, la Macédoine, la Serbie et la Croatie. Désormais, ils sont des milliers chaque mois à tenter leur chance par l'Albanie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. L'Union européenne, qui a déjà acté le renforcement de ses frontières extérieures, sera sans nul doute prête à payer très cher pour fixer une partie de ces migrants dans les Balkans. « Je n'ai rien à faire de l'argent de l'Union européenne », a officiellement expliqué le ministre bosnien de la Sécurité, Dragan Metkić. Mais les gouvernements de la région seraient en train d'étudier les avantages d'une coopération avec Bruxelles. Ouvrir un camp est de fait un business rentable. Il faut monter des infrastructures, fournir de la nourriture, assurer la sécurité, employer des médecins et du personnel administratif. Pour faire monter les prix, aucune capitale de la région ne sera prête à accepter rapidement un compromis, mais il n'est pas impossible que des volontaires finissent par se dévoiler, à condition tout d'abord que les pays de l'Union se mettent d'accord sur les objectifs auxquels ces plateformes de débarquement sont censées répondre.
Oh, barman, barman, please serve me a British pint of beer.
Au Royaume-Uni, le Brexit se fait mousser. La chaîne de pubs Wetherspoon, qui compte 880 établissements dans le pays, a décidé de favoriser les boissons britanniques et non européennes à partir du 9 juillet. Décision annoncée par son fondateur Tim Martin, lui-même grand eurosceptique, Marie Billon.
Adieu bières blanches françaises et allemandes, place aux mousses anglaises sur les comptoirs des pubs Wetherspoon. Alors que les Britanniques nagent dans le Brexit et ont du mal à sortir la tête de l'eau, ils pourront bientôt noyer leur chagrin dans de la bière bien de chez eux. Les europhiles ne sont pas complètement oubliés cependant, puisque les bières belges ne semblent pas être touchées par l'avis d'expulsion. Un comble, hein, puisqu'elles proviennent quand même du pays qui est le siège de l'UE tant haï par le président fondateur. C'est que la déseuropéanisation de Wetherspoon n'est ni complète ni vraiment cohérente. Ainsi, le Prosecco italien continuera d'être servi. Peut-être parce que les Britanniques sont de grands consommateurs de ce vin blanc effervescent, puisque selon la foire au vin Provine, ils avaleraient un tiers de la production mondiale. En revanche, le champagne, français donc, ne sera bientôt plus disponible chez Wetherspoon. Il est en passe d'être remplacé par des vins pétillants du Surrey, au sud de l'Angleterre et d'Australie. Mais en réalité, le champagne ne se vend déjà pas très bien au Royaume-Uni, moins 2,5% en 2017, et sur les réseaux sociaux, beaucoup voient dans la décision de bannir le vin de champagne un coup de publicité opportuniste. D'autant plus remarquent les Britanniques que la chaîne Wetherspoon n'est pas vraiment le genre d'endroit où le champagne coule à flot, ce ne sont pas des gastropubs chics. Le fondateur de Wetherspoon, Tim Martin, lui, veut prendre les Européens à leur propre jeu. Il accuse l'UE d'imposer des droits de douane protectionnistes aux produits non communautaires et donc d'étouffer la compétition, ce qui a pour effet d'augmenter les prix pour les consommateurs britanniques, dit-il, et ce n'est qu'un début, prévient-il. Wetherspoon honorera bien ses contrats avec ses fournisseurs européens, mais continuera à transformer de plus en plus ses pubs en no-go zone pour les produits de l'UE.
Dernier volet ce mercredi de nos reportages dans les lycées, dans le cadre de notre projet L'Europe et moi, saison 2. Cette semaine, Eve Minot s'est rendue dans un grand établissement du centre de Paris, le lycée Charlemagne, avec cette question, pas des plus faciles. L'Europe impose-t-elle un modèle économique ultra-libéral ?
Le libéralisme, ça vous dit quelque chose ?
Libéralisme et déficit ne sont pas encore des notions au programme pour ces élèves de seconde. Une petite mise au point est donc nécessaire pour expliquer les critères de Maastricht. Un déficit public inférieur à 3%, une dette limitée à 60% du PIB, réaction à chaud.
Si ça empêche des pays de s'endetter plus, bah c'est une bonne règle.
Alors pourquoi ça pose problème si tout le monde trouve que c'est une bonne règle ?
Parce qu'après ça empêche de pouvoir rentrer dans ce surendettement et la France elle a besoin d'emprunter de l'argent et les 3% ça la bloque. Je veux dire, la dette, c'est que des chiffres, c'est tout cet argent, c'est juste des numéros sur un ordinateur, ils représentent rien du tout. Moi, je pense que c'est l'économie de marché qui a créé ça, et du coup, ça continue, ça s'emballe, et on n'arrive pas à l'arrêter.
Après la théorie, le cas pratique et la crise grecque, autant dire un épisode préhistorique pour ces jeunes lycéens qui avaient à peine 5 ans en 2008, au tout début de la crise financière.
Dans mes souvenirs, c'est parce que les Grecs, ils avaient plus d'argent, du coup ils ont emprunté aux banques avec, en disant qu'ils allaient prendre avec des intérêts énormes, plus de 10%, sauf qu'ils ne pouvaient jamais rembourser, ils empruntaient avec des taux énormes et ils augmentaient les intérêts, sauf que plus personne ne voulait leur donner de l'argent puisqu'ils savaient qu'ils n'allaient jamais être remboursés, du coup bah, le pays a été... foutu.
Hasard des voyages de classe, plusieurs élèves sont partis ensemble en Grèce il y a quelques années. Lisa et Esther se souviennent.
Quand on était en Grèce, tout était un peu moins cher que par exemple en France. Pendant la crise, j'ai surtout une image de ce qu'on voyait à la télé, de longues files d'attente devant des distributeurs. Et vu qu'il n'y avait plus forcément beaucoup d'argent dans les banques, bah, les gens essayaient de retirer ce qui restait, mais...
Moi aussi je suis allée à Athènes et ce qui m'a frappé c'était il y avait un quartier en fait complètement laissé à l'abandon et je me souviens très bien il y avait des carcasses d'immeubles dont le chantier en fait c'était brusquement fini.
À l'écran, Ellie raconte son histoire. Cette chef d'entreprise de 48 ans expose sa difficulté à maintenir son activité en période d'austérité. Héraclès, lui, a 25 ans et bien du mal à vivre de son salaire de 600 euros mensuels. Et ses élèves, en voudraient-ils à l'Europe s'ils étaient à leur place ? Lisa.
Je pense qu'il faut plus en vouloir aux générations d'avant qui n'ont pas su gérer. Parce que l'Union européenne, en soi, si elle disait « bon, allez, on efface une grosse partie des dettes », tous les autres pays se diraient « bon, bah allez, on va emprunter de l'argent, on va faire plein de trucs pas forcément très utiles ». C'est bien d'avoir quand même un encadrement, même si parfois il est sévère.
Plus critique, mais aussi plus cynique, Guillaume n'est pas du même avis.
C'était soit le système qui s'écroule, soit la Grèce qui s'écroule, et on a décidé que c'était la Grèce qui allait payer pour l'Union européenne en entier. Je trouve que l'Union européenne laisse faire les choses et elle regarde les conséquences après.
Quelle est la part de responsabilité de l'Europe dans l'épisode grec ? Un autre compromis était-il possible ? Dans la classe, si les jeunes lycéens ont plutôt du mal à remettre en question l'ordre établi, tous considèrent que le sacrifice grec était un beau gâchis.
Au revoir. Au revoir.
En Turquie, il n'y a pas d'heure pour boire le thé, mais durant l'été, les fortes chaleurs incitent les Turcs à le consommer dans l'ombre des jardins à thé. Ces lieux populaires et tranquilles se sont retrouvés malgré eux au cœur de la dernière campagne électorale, comme nous le raconte Anne Andlauer à Istanbul.
Ce bruit, c'est celui d'une cuillère qui tourne dans un petit verre aux formes arrondies, juste ce qu'il faut pour épouser la forme de la main. Dit plus vite, pour les oreilles d'un Turc, ce bruit, c'est le bruit du thé. Les Turcs sont parmi les plus gros consommateurs de thé au monde. 96% d'entre eux disent en boire tous les jours, ce qui fait au bas mot 250 millions de verres engloutis du matin au soir, de l'ouest à l'est du pays. Les Turcs boivent leur thé partout, chez eux, devant leur commerce, à la fin d'un bon repas, sur une nappe de pique-nique, mais il existe aussi des lieux dédiés où ils viennent faire teinter en cœur leur cuillère dans le verre et qu'on appelle tout simplement des jardins à thé. Ce sont des endroits ombragés, parfois face à la mer ou bien au bord d'un lac. Et même s'il est souvent possible d'y commander autre chose qu'un verre de thé bien frais, non pas au sens où il serait froid car le thé turc est toujours brûlant, mais au sens où le thé est frais, ce qui lui donne d'ailleurs une belle couleur rubis, que les Turcs appellent « sang de lapin ». Même s'il est souvent possible donc de commander dans ces jardins autre chose qu'un verre de thé, l'idée serait tout de même bien étrange. Pas aussi étrange cependant que celle qu'a eue le mois dernier Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État turc était en campagne pour sa réélection et l'une de ses promesses a beaucoup fait jaser dans les jardins à thé et ailleurs, celle d'ouvrir dans tout le pays des endroits où les Turcs viendraient consommer gratuitement du thé et des gâteaux en feuilletant les pages d'un livre. Sortie de nulle part, l'idée a tout de suite été moqué par les rivaux du président, qui l'ont accusé de n'avoir rien d'autre à offrir aux jeunes et aux 3,5 millions de chômeurs que du thé et des muffins à volonté. Reste que Recep Tayyip Erdogan a gagné sa réélection, qui plus est dès le premier tour. Pendant les 5 prochaines années, il aura tout le loisir de servir du thé aux Turcs. Ses opposants lui trouveront sans doute un goût bien amer.
Françoise Grelot a réalisé mise en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40 en temps universel et tout de suite sur votre téléphone portable avec l'appli Pure Radio.